Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et sur internet rdwa.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre manière d'échanger, payer des services avec du temps et non avec de l'argent. Et ce petit changement, ça peut changer beaucoup de choses. Moins d'inégalités, plus de convivialité, moins de pauvreté. Et c'est justement ce que permet l'accorderie, un réseau d'échange basé sur une monnaie temps. Et pour en discuter, je reçois aujourd'hui Pascal, qui a fait partie des personnes qui ont lancé la première accorderie au Québec en 2002, qui est aujourd'hui présidente du réseau des accorderies de France. Bonjour Pascal.
Bonjour Eric.
Également avec Muguette, qui est accordeur, qui a eu l'honneur de vivre et de participer dans deux accorderies, l'accorderie de Surgères et maintenant l'accorderie du Diwa, en passant entre-temps par l'accorderie de Chambéry. Bonjour Muguette.
Bonjour.
Tu peux te présenter en quelques mots sur
En quelques mots, moi j'ai connu l'accorderie à Chambéry puisque j'habitais Chambéry et je travaillais à Chambéry, donc j'ai travaillé avec eux. Ensuite, j'ai déménagé en Charente-Maritime, à Surgères, à côté de La Rochelle. Et là, je me suis tout de suite inscrite à l'accorderie parce que pour moi, ça prend sens. C'est quelque chose qui... une autre façon de vivre, une autre façon de consommer. Ça m'a permis aussi, je suis arrivée à Surgères, je ne connaissais personne, donc ça m'a permis de tisser du lien social immédiatement. Et puis là, je suis arrivée dans le Diwa et c'était aussi important pour moi, mon déménagement, qu'il y ait une accorderie à côté. Parce que j'ai vu qu'en 3 ans, tout ce que ça m'a apporté, tout ce que j'ai pu échanger aussi, c'est pas que dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Et pour oui, ça a vraiment du sens pour moi d'habiter à côté d'une accorderie.
Donc tu peux vivre seulement dans 37 villes en France, il y a 37 accorderies.
Après, si je pourrais vivre autre part, s'il n'y a pas d'accorderie. Mais ça a été aussi un choix.
On peut rappeler pour les auditeurs qui découvrent l'accorderie, qu'est-ce qu'une accorderie ?
Alors une accorderie, c'est basé sur un système d'échange de temps. Il n'y a pas d'argent. C'est une association loi 1901. Il n'y a pas d'argent et ça veut dire que, par exemple, je vais tondre la pelouse chez Monsieur Durand et Madame Dupont va me faire un couscous. Ouais. Et tout ça, toutes les heures qu'on va échanger, par exemple, si je tonds la pelouse, ça va me prendre 1 heure. Ça va venir en plus sur mon compte, comme si c'était un compte bancaire, sauf que c'est du temps. Et ces heures vont faire qu'on va être ensemble. Il y a aussi des temps de partage où on fait des choses ensemble, des ateliers collectifs. Par exemple, moi, je viens de faire un atelier choucroute avant le deuxième confinement. Donc, on a appris à faire de la choucroute tous ensemble. On était 7, je crois. Donc, il y a des ateliers comme ça. Et puis, il y a aussi des temps conviviaux. Alors, ici, ça s'appelle l'apéro des nouveaux. À Surgères, c'était la conviviale. Une fois par mois, on se retrouve, on chante, on fait des jeux, on discute, on mange. Voilà.
Pascal, je te laisse te présenter un peu sur cette belle histoire qui a commencé il y a bientôt 20 ans au Québec.
Oui, exactement. En 2002, même plutôt en 2001, je travaillais dans une coopérative financière qui s'appelle la Caisse d'économie solidaire, donc elle porte bien son nom, et qui réfléchissait avec d'autres sur la mise en place d'un organisme de solidarité. La caisse est située dans les quartiers dits pauvres de Québec. On voyait arriver des banques alimentaires, des prêteurs sur gage, donc avec d'autres partenaires du quartier, dont le curé d'ailleurs de la paroisse. On a commencé à réfléchir à mettre en place un organisme de solidarité, mais qui permettrait aux gens de se prendre un peu en charge, c'est-à-dire donc de ne pas recréer un énième organisme social. Et donc, petit à petit, est venue l'idée d'un système d'échange local de services, d'une banque de temps. Enfin, donc, c'est parti un peu comme ça. Et en 2002, en fait, on a officiellement inauguré l'accorderie à Québec. Bon, il y a eu un ou deux ans où on s'est un peu cherché, mais très rapidement, la particularité, c'est qu'on a mis en place des services d'échange individuels, mais ça, c'est le classique. Mais on avait aussi, justement, pour contrer les prêteurs sur gage, on a mis en place un système de crédit solidaire organisé par les accordeurs pour les accordeurs. Et pour contrer les, enfin pas contrer, mais pour compléter les banques alimentaires, on a mis en place un système d'achat alimentaire à bas prix. Et tout ça, ça a fait la corderie avec bon, des hauts et des bas et tout moment. Et puis au bout de quelques années, ben, on s'est retrouvé à 700, 800 membres. Et donc ça a commencé à faire parler autour de nous. Et donc comme moi j'avais eu l'occasion de rencontrer le président d'une grande fondation canadienne, québécoise, très très importante, en lui en parlant, il a trouvé ça intéressant. Et il nous a aidé à monter le réseau des accorderies du Québec. Et à développer le concept, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a 13 au Québec. Alors, il faut juste se rappeler que le Québec, c'est 8,5 millions d'habitants, donc c'est Rhône-Alpes à peu près, donc c'est 13 accorderies, ce qui est pas mal. Et puis donc, comme le Québec et la France ont des échanges réguliers, lors d'un voyage du président de la Fondation Massif, donc issu du groupe Massif, et du président du Secours catholique, ils sont venus visiter la corderie de Québec. Ils ont trouvé ça particulièrement intéressant et ils ont décidé d'essayer de la planter en France. Et donc ça s'est décidé en 2008, 2010, 2011. On a commencé à travailler avec mon mari. On était rentrés du Québec. On s'était installés dans le Diwa. Donc, ils nous ont confié le mandat de rapatrier tous les outils qu'on avait mis un peu en place au Québec, enfin avec l'accord du réseau québécois, et de commencer à développer des accorderies en France. Alors, il y en a une première qui s'est développée à Paris, une deuxième à Chambéry, qui était un peu le lieu où j'avais vécu avant, où j'avais encore beaucoup d'amis. Évidemment, en m'installant dans le Diwa, en parlant un peu de ce projet qui me tenait à cœur, ben, ça a suscité des envies. Donc, tout de suite, il y a un petit groupe d'habitants du Diwa qui s'est mis autour du projet. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, il y a 37 accorderies en France et 3 autres en gestation en ce moment. Donc, 10 ans plus tard, ce qui est pas mal.
Et en termes de nombre d'adhérents en France, par exemple ?
Alors, les statistiques bougent un peu parce qu'on est toujours en train de se demander s'il faut compter que les membres dits actifs ou les inscrits. Mais sur les inscrits, on était 18 000 et plus de 300 000 heures d'échange déjà depuis 10 ans. Et encore, on sait très bien que les statistiques ne sont pas justes parce qu'il y a des gens maintenant qui échangent et sans même s'échanger de temps. C'est dans la convivialité, donc on sait qu'il manque des heures, mais ça, ce n'est pas grave. On dit ça. Mais oui, ça commence à faire un bon volume d'heures échangées depuis 10 ans. Et surtout que toutes les accorderies ne sont pas créées depuis 10 ans, donc ça s'est accéléré en 4-5 ans. Là, par contre, il y a eu des périodes où on en créait 10 par an, quoi. C'était énorme, quoi. Et donc, on a créé le réseau. Au début, on a fait ça un peu une par une. Et puis, en 2012, les partenaires français se sont aperçus qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a décidé de créer un réseau français, donc avec les accorderies existantes et les partenaires du départ qui étaient autour de la table, c'est-à-dire la Fondation Massif, le Secours catholique et la Caisse des dépôts. On était quand même avec des gros partenaires institutionnels intéressés au projet qui nous ont aidés à monter le réseau des accorderies. Voilà, la belle histoire depuis 18 ans.
Pour vous, l'accorderie, c'est une alternative un peu au système économique en place ?
C'est un complément. C'est pas une. Enfin, je pense que on peut peut-être rêver qu'un jour il y ait des accorderies partout et qu'on puisse se passer du système. Là, je pense qu'il faut peut-être être pas utopiste, mais pas trop quand même. Mais par contre, un complément, oui. Moi, j'ai entendu il y a pas si longtemps ça, il y a un an ou deux, un chercheur assez réputé en France qui disait que à côté des monnaies nationales comme l'euro, le dollar, il y avait maintenant des monnaies locales. Donc ça, on connaît un peu. Mais il y avait aussi des monnaies temps. Et que ce serait peut-être intéressant de travailler sur ces monnaies temps. Elles ont une particularité, c'est qu'elles sont c'est une monnaie qui favorise l'égalité parce que alors on a tous le même temps, quel que soit le milieu dont on est issu. Il n'y a pas plus de 24 heures par journée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait qu'on part avec le même capital. Il n'y a pas beaucoup de monnaies qui permettent de faire ça. Et donc, il disait, mais pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas des participations de citoyens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont du temps, qui pourraient participer à plein de choses et qui, en contrepartie, pourraient recevoir d'autres services, y compris par des collectivités locales, quoi que ce soit. Donc, c'est pas, on peut rêver qu'effectivement, on revienne à un système complètement d'échange de services, mais ça, je crois que c'est pas possible. Mais en complément de l'économie, oui, ça, sur une économie locale, oui, je pense que ça peut faire une différence assez importante. Ça permet surtout de gommer là, une partie des inégalités sociales. Parce qu'à partir du moment où on a tous le même temps dans une journée, en tout cas, bon, après, il y a le temps qu'on utilise, mais on, en tout cas, on part avec une journée de 24 heures. Ça n'existe pas des journées de 20 heures ou de 30 heures, c'est 24 heures. Et ça permet à des gens qui ont ce temps-là de pouvoir échanger des services qu'ils ne pourraient de toute façon pas se payer en euros. Ça, c'était vraiment le grand principe de départ des accorderies, c'est de permettre à des gens... d'une part, de faire valoir leurs capacités, leurs compétences, parce qu'on en a tous, parce que quand on est dans la précarité économique, sociale et tout, on s'entend dire à longueur de journée qu'on n'est pas bon pour la société, ou qu'on ne sait rien faire, ou que je ne sais pas trop quoi. Et bien là, non, c'est l'inverse. On reconnaît les talents et les compétences des uns et des autres, et il y en a plein. Et donc ça, ça permet aussi aux gens de se dire, ben moi, je peux mettre ces compétences au service de quelqu'un, je reçois des heures en contrepartie, et je vais me payer des services que de toute façon, je ne pourrais pas me payer. Donc il y a bien une amélioration de la condition de vie à travers les accorderies.
Moi, je voudrais rajouter que ce n'est pas forcément une question de précarité, parce qu'il y a tous les milieux sociaux et générationnels dans une accorderie. Et il peut y avoir des gens qui ont de l'argent ou pas, mais qui ont envie de vivre autrement et d'échanger des savoir-faire, des compétences, simplement parfois des rencontres ou boire un café ensemble. Sans qu'il y ait d'argent, mais avec une autre optique de consommation.
Et par exemple, quand vous dites arriver à prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut offrir, c'est, en fait, c'est l'accorderie où ça permet de réduire des inégalités, c'est des gens qui arrivent et en se disant je sais pas quoi offrir, et en fait d'arriver à prendre conscience en rencontrant les gens de toutes les myriades de choses qu'on peut offrir et qui ont une valeur et parfois une grande valeur et qu'on voit même plus parfois. C'est un peu ça, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ça, c'est la question qu'on a dû entendre je sais pas combien de fois depuis 18 ans, c'est mais qu'est-ce que je peux bien offrir? Ça revient, c'est pas plus tard que tout à l'heure, de l'autre côté, je l'ai entendu. La personne qui disait je voudrais m'inscrire me dit mais je sais pas quoi offrir. Je dis tiens, ça c'est vraiment incroyable, ça revient tout le temps, c'est qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux offrir. Et je dis toujours, mais qu'est-ce que tu aimes faire aussi? C'est pas juste qu'est-ce que je sais faire, mais qu'est-ce que j'aime faire. Et de le partager, de partager tes passions. Et là, on découvre tout d'un coup qu'on a tous des tas de talents et de compétences et qu'on nous le dit jamais, ça. On s'attend à avoir une compétence précise, alors qu'en fait, on en a plein. Et il y a des richesses absolument incroyables dans les accorderies.
Et parfois, ça peut être des petits trucs. Ah oui, c'est, on n'est pas dans des grosses compétences. Il peut y avoir des grosses compétences, mais ça peut être des petits trucs de poser un luminaire, de recoudre un bouton. Moi, j'ai lavé un blouson à un monsieur qui ne savait pas comment faire. Donc vraiment, c'est des tout petits trucs. Et c'est ça qui fait cette richesse. Et parfois, on vient nous chercher pour des choses qu'on n'a pas mis dans notre liste qu'on savait faire, mais on nous dit, bah, tiens, tu pourrais pas faire ça? Est-ce que tu saurais faire ça? Et c'est cette mixité qui fait que, ben, en fin de compte, on se rend compte qu'on sait faire plein de choses.
Et donc, si on veut développer encore plus le réseau, si on veut ouvrir une accorderie, comment ça se passe, par exemple ?
Alors ça, il faut demander au réseau des accorderies. Il y a donc il y a une commission. Alors au niveau, puisque le réseau est constitué maintenant en ce qu'on appelle une gouvernance partagée, donc plein de commissions de travail dans lesquelles il y a tous les administrateurs et des accordeurs des accorderies. Et il y a une commission qui s'appelle un pôle, même qui s'appelle suivi des accorderies en activité et procédure d'agrément. Donc, il faut appeler le réseau des accorderies, donc qui va envoyer en général une des trois coordonnatrices qu'on a au niveau du réseau, donc c'est une personne salariée, mais qui va y aller avec une accorderie qui va être proche ou en tout cas qui va emmener avec elle des gens du réseau des accorderies pour aller expliquer un peu comment on fait ça. Après, il y a tout un processus d'accompagnement qui est assez long. Hein. Pour ouvrir une accorderie, c'est 18 à 24 mois. D'accord. Parce qu'on veut être sûr que les gens ont bien compris ce que c'était. C'est vrai que ça peut paraître des fois un peu lourd, mais c'est les conditions de réussite qu'on a pu voir depuis ces 18 ans, justement, puisqu'on avait mis en place ce système au Québec. C'est vraiment de dire il faut que ce soit vraiment un projet d'habitant. On a souvent eu des créations d'accorderies, on appelait ça par le haut, c'est-à-dire une institution qui trouvait ça super intéressant, ou un maire qui disait « je vais monter une accorderie dans ma ville ». Ça peut être bien, mais s'il n'arrive pas à mobiliser les habitants de la ville, ça ne marchera pas. Il faut vraiment des habitants au départ qui aient envie de prendre le projet d'accorderie. Et s'ils ont vraiment envie, après, le réseau va les accompagner jusqu'au bout. Et maintenant, on fait des marrainages d'accorderie, ce qui permet d'être en soutien à une accorderie qui démarre. De se dire, tiens, je sais pas comment faire ça. Dit, ben attends, on a toute la richesse dans le réseau. Sur les 37 accorderies, il y a la probabilité que la question qu'on se pose, on l'ait déjà répondu quelque part. Voilà, donc c'est la force aussi du réseau des accorderies de faire ça.
Donc en gros, si on est dans une ville et qu'on souhaite créer une accorderie, il faut commencer à être une petite dizaine de collectifs d'habitants.
Oui.
Et puis ensuite, venir voir le réseau.
Voilà.
Et pour être une accorderie, il faut un salarié aussi.
Oui, alors ça, c'est la condition après pour ouvrir. Donc ouais. Effectivement, on a mis en place ce qu'on appelle une convention de franchise sociale. Alors c'est très, très barbare. Le principe d'une convention de franchise, c'est, on les connaît les franchises, hein, on en voit de partout. Sauf que là, la franchise, c'est l'accorderie. Et c'est surtout pour bien guider les droits et les devoirs de chacun. Mais dans la convention, il y a effectivement l'obligation d'avoir un local et une personne salariée. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, par rapport aux autres systèmes d'échange de locaux de services, les selles, les banques de temps, etc., que quand il n'y a pas d'animation, c'est compliqué que ce soit fait uniquement par des gens qui viennent un peu de temps en temps. Il y a besoin d'une présence régulière. Par contre, la particularité des accorderies, c'est que, compte tenu du nombre d'accordeurs, plus il y a d'accordeurs, moins le temps salarié est important. Ça peut paraître bizarre de dire ça. Et donc, en général, c'est de trois quarts de temps plein maximum, avec et un local. Parce que le local, c'est vraiment important. On s'aperçoit que pour échanger, c'est pas si simple que ça d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas et de lui demander de venir chez soi, par exemple. Donc, le local favorise les rencontres. Et puis, c'est un point, on voit bien, on a vu ça dès le départ, que c'était le lieu où les gens venaient. Moi, je me souviens, à Québec, les premiers temps, on disait, mais les gens passaient en disant « Oh, je viens juste un quart d'heure », ils restaient l'après-midi parce que, bon, ils avaient besoin de liens sociaux, de plein de choses. Et évidemment, ce qui se passe, comme toujours, au bout d'un moment, on fait connaissance avec plein de gens, puis là, on commence à échanger. Mais c'est la particularité des accorderies. Je voudrais compléter, quand j'ai parlé de la précarité, parce que c'est le parti pris de départ des accorderies. Elles ont été montées vraiment pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, mais dans un esprit justement de mixité sociale et intergénérationnelle. Donc on disait, on ne va pas refaire des ghettos de personnes pauvres, sinon ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on ait des gens de toute catégorie sociale et qui arrivent toujours en se disant... on n'a pas étiqueté sur la tête notre catégorie socio-professionnelle. Ça, c'est bien. Donc, on peut discuter pendant une heure avec un autre accordeur. Moi, j'ai fait des permanences à 10 souvent. Il y a eu des petites histoires, des petits bijoux de discussion entre deux personnes donc, que je connaissais bien, dont une dont je savais qu'elle avait fait des études supérieures et qui avait même eu un poste très, très important dans l'administration, et puis une autre personne qui était en précarité depuis longtemps. Pendant une heure, elles se sont parlé, et c'est qu'à la fin qu'elles ont commencé à se demander ce qu'elles faisaient dans la vie toutes les deux. Ouais. Ça ne se serait jamais passé autrement. Elles ne se seraient pas rencontrées, elles ne s'auraient pas discutées. Parce qu'il y a toujours une espèce de préjugé qui arrive derrière quand les gens se présentent. Et ça, c'est la beauté dans une accorderie, c'est que ça existe. Enfin bon, après, il y a le facteur humain qui peut jouer, mais quand même, c'est le grand principe, c'est on est tous égalitaires en temps, en humanité. Et donc, voilà, il faut vraiment que cette mixité sociale et intergénérationnelle, c'est la clé de l'accorderie. Donc oui, elle est aussi faite pour des gens qui ont du mal à franchir des portes. Moi, je me souviens, au centre social, j'étais coprésidente du centre social de Die, et il y a des gens qui nous disaient c'est plus facile de franchir la porte de l'accorderie que du centre social. Même au centre social, où il y avait un accueil absolument extraordinaire, mais ils disaient à l'accorderie, quand on rentre, on ne nous demande pas quel est notre problème. On vient juste, on passe la porte, et puis voilà, on vous accueille, et puis au bout d'un moment, on présente l'accorderie, et puis on va vous demander qu'est-ce que tu as envie d'échanger. Donc ils disent, c'est pas tout à fait la même démarche, quoi, c'est ça. Et après, ça, je ne veux pas dénigrer, au contraire, on est partenaire de toutes les structures sociales. Hein. J'ai assez travaillé dans ce domaine-là, mais c'est important de dire que c'est un lieu simplement où les gens échangent. Voilà.
Et pour rendre ça possible, donc, il faut arriver à trouver les financements pour financer une salariée.
Et le local.
Et le local. Mmh. Et ça, c'est au collectif d'habitants à aller trouver les financements.
Oui.
Ou c'est l'accorderie qui...
C'est le
réseau national des accorderies met en relation, ou c'est vraiment au collectif d'habitants à aller faire la démarche de trouver son financement local?
C'est les deux. En fait, le réseau des accorderies va donner les pistes. Donc, en général, on a une base de données qui nous donne tous les financements que toutes les accorderies ont pu aller chercher sur toute la France. Donc on les aide. Et là, depuis quelques temps, depuis un an, au niveau du réseau, on a mis en place un poste qu'on appelle développement financier en particulier. Donc on a deux personnes qui sont dédiées à la recherche de financement au niveau national, mais aussi local. C'est-à-dire qu'elles essayent de conclure des gros partenariats avec des institutions françaises qui permettent de financer à la fois le réseau en accompagnement et des accorderies. Donc on a plusieurs partenariats. Adi, on a profité par exemple de celui avec AG2R la mondiale, qui est très préoccupé évidemment de la place des personnes âgées dans la société et qui depuis 3-4 ans nous fait des financements par année de 5 ou 6 accorderies sur des projets tournés vers les personnes âgées. On leur dit toujours, mais nous, on en a dans les accorderies, on ne va pas faire un projet spécial avec elles, parce qu'elles sont de toute façon là. Mais on va continuer à faire de l'accorderie, mais on va vous dire ce que ça fait comme effet sur les personnes plus âgées. Et donc, on a fait ça avec AG2R. Du coup, le groupe Malakoff-Fédéric nous demande de faire un peu la même chose. Et depuis plusieurs années, on commence à créer des partenariats importants avec ces grandes institutions. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, une reconnaissance de ce que font les accorderies, parce que quand ce sont des grands partenaires comme ça. Et puis là, on a réussi aussi à rentrer à la CNAF, donc la Caisse Nationale d'Allocation Familiale. Et de plus en plus d'accorderies obtiennent le statut de ce qu'on appelle espace de vie sociale, qui est un agrément qui permet d'avoir des financements sur 4 ans à hauteur de 60% des budgets. Donc ça, c'est quand les accorderies ont ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Puis le reste, ben, c'est un peu, j'allais dire, du bricolage. Suivant les lieux où on est, ça va être des mairies qui vont mettre à disposition le local, ça va être des collectivités qui vont prendre en charge une partie du poste du salarié. On avait les contrats aidés, bon, il n'y en a plus, mais alors bon, c'est un peu de la précarité financière sur les accorderies, mais on a connu ça au Québec, ça fait 18 ans que ça dure, et les accorderies, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a quasiment aucune confirmée à cause de problèmes financiers. D'abord, il y en a très peu confirmées. En fait, sur le réseau français, il n'y en a que deux. Sur le réseau québécois, il n'y en a que deux de mémoire. Et ça, en général, c'était plutôt des problèmes de gouvernance que de problèmes financiers. Donc, voilà.
D'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai une question quand j'ai rencontré Marie-Françoise et Daniel.
Oui.
Donc, il y a du prêt solidaire qui est fait par l'accorderie. Oui. Et comment il est financé, cette caisse de prêt solidaire, par exemple, bon, Adi, en l'occurrence.
Alors, on est allé chercher... là, c'est pareil. Donc, il y a la banque, la NEF, la nouvelle économie fraternelle, la banque, la NEF, qui existe à Lyon, là, qui a une association qui s'appelle maintenant Germe de Fraternité, je crois, de mémoire. Et moi, je les connaissais bien, donc je les avais sollicités il y a quelques années pour leur dire, on veut mettre en place du prêt solidaire sur EDI, mais là, il nous faudrait un petit fonds. Donc au début, ils nous ont dit, OK, on fait un prêt d'honneur, donc vous rembourserez quand vous pourrez. Puis il y a 2 ans, ils nous ont transformé ça en don pur et simple. Donc ça nous a permis d'avoir un fonds pour prêter aux accordeurs.
Quand je repense à la diversité, donc il y a 13 accorderies au Québec, 37 en France.
Une en Belgique.
Il y en a dans d'autres pays ?
Non.
pour bientôt ?
Alors, on a été demandé, mais bon, c'est plus compliqué. Canada anglais ou dans des pays où ce n'est pas la même langue. Je suis même allée... Non, mais ça vaut le coup quand même. Je suis quand même allée au Maroc avec le président de la Fondation Massif à l'appel de la Caisse des dépôts du Maroc qui voulait... Alors, ça m'avait un peu surprise en me disant, mais comment ça se fait que dans des pays comme ça où, à mon avis, la solidarité paraissait naturelle ? Et bon, ça n'a pas vraiment abouti parce que là, ça devenait quand même compliqué de transférer les outils, le transformer. Enfin bon, on n'était pas quand même tout à fait dans la même culture, mais ça avait intéressé au point qu'on y aille, quoi.
Parce qu'en fait, l'accorderie, c'est un peu un entre-deux. Il y a la solidarité de voisinage où tout le monde se connaît, on ne comptabilise pas le temps, les services rendus. Et puis après, il y a la grande ville où personne ne se connaît. Et l'accorderie, c'est un peu cet entre-deux entre juste le voisinage et puis les services à plus grande échelle, un peu avec du temps comptabilisé.
C'est surtout que le fait d'avoir un chèque temps, moi, c'est des chercheurs qui m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit c'est de la reconnaissance de la compétence. Et c'est très important. Alors bon, maintenant, les chèques temps, des fois, on ne les utilise plus. On a des petits cahiers où on marque le temps. Mais elle disait, le fait d'avoir une monnaie temps, c'est aussi de reconnaître à quelqu'un sa compétence et son service. En disant, je te rémunère même en temps, mais je te rémunère pour quelque chose. Donc, ce n'est pas juste du voisinage. Mais dans les grandes villes, ça marche très bien. Dans les quartiers des grandes villes, à Paris, il y a quand même 4 accorderies sur Paris. Et 18e, 19e, 20e, c'est des quartiers. 14e sont des quartiers très, très populaires. Et les accorderies, vraiment, elles marchent très, très bien sur Paris.
Ça m'est passé, donc si on pense à l'accorderie de Surgères où tu étais, Muguette, celle de Chambéry que tu as connue, celle de
Dix. J'ai connu celle de Limoges, j'ai connu celle de Paris parce que lors de mes pérégrinations, de mes voyages, et ben, des moments j'ai besoin d'un logement et pour partir en Afrique, j'ai été hébergée pendant 2 jours à Paris chez une accordeuse qui était incroyable, quoi, que j'aurais jamais rencontrée autrement, qui avait plus de de 80 ans et qui m'a ouvert sa porte. Et voilà, et on a discuté toute la soirée et c'était vraiment super, quoi.
Mais alors, comment ça se passe, par exemple, là, tu pars à Paris, tu vas dans la base de données voilà. de l'accorderie
ouais.
parisienne
ouais, oui.
que tu trouves sur Internet ouais. et tu appelles des accordeurs au hasard.
Voilà. Et alors, puis, pas forcément au hasard parce qu'on a des catégories. Donc, je vais chercher dans hébergement.
La catégorie hébergement.
Voilà, dans le quartier que je voulais. Et puis, je tombe sur une dame qui avait eu un passé incroyable. Quoi. Donc, et je trouve que c'est vraiment ça, l'accorderie. C'est cet étonnement qu'on peut avoir... par les rencontres, dans le quotidien et dans tout ce qui se passe. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens. Il y avait à Surgères, il y avait un ostréiculteur qui était tout timide. Mais un jour, on a réussi à parler des huîtres et il m'a parlé de son métier. C'était formidable, quoi. Et il y a cette mixité comme ça de personnes toutes simples ou des personnes qui ont eu des parcours incroyables. Et tout ça, ça se mélange, quoi.
Et dans la manière de fonctionner, il y a des différences de fonctionnement entre les accorderies ou tu as l'impression d'être chez toi dès que tu arrives dans une nouvelle accorderie ?
Alors, on a l'impression d'être chez soi parce qu'il y a la fraternité. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il y a cette amitié qui est là, qui met du temps quand même. C'est pas je pousse la porte et ça y est. Hein. Il faut quand même du temps pour s'implanter, pour comprendre les gens, pour se faire des amitiés, pour rentrer en relation. Après, c'est plus ou moins, si on est timide, ça va prendre plus de temps. Alors, il y a une base, voilà, on est tous là pour échanger du temps, il n'y a pas d'argent, il y a un salarié, il y a un local. Ça, c'est cette base-là. Après, les accorderies, c'est des hommes et des femmes qui les portent. Donc, il y a des différences, déjà sociales, où elles sont implantées. Ici, on est en pays de montagne. Il y a des différences avec Surgères, où c'est au bord de la mer, quoi. Et avec Limoges, il y aura encore d'autres différences. Et puis, il y a les gens qui sont créateurs, qui impulsent un mouvement. Donc, je pense que chaque accorderie est différente, avec un socle commun et plein de particularités. Mais on est toujours chez soi, quoi. Moi, je me souviens, avant que j'habite ici, je suis venue travailler à Die un jour et la personne, la cordeuse qui devait me loger un soir pour mon travail, là, elle m'appelle l'après-midi pour me dire « je suis malade, je ne peux pas vous recevoir ». Je lui dis « oh, alors là, bon, je travaille, je n'ai pas le temps de m'occuper, on verra ça soir ». Et en fin de compte, je me suis dit « bon, après mon travail, je me dis « bon, il faut que je me trouve un hébergement pour la nuit ». Et je passe au local, il y avait de la lumière, je pousse la porte et je dis bah voilà, telle personne pouvait pas devait m'accueillir, elle ne m'accueille pas, je ne peux pas avoir accès à l'informatique, qui est-ce qui pourrait m'héberger ? Et là, il y avait une dame, Catherine, que je ne connaissais pas du tout, quoi. Personne ne me connaissait, sauf que je venais de l'accorderie de Surgères et elle m'a dit bah, venez dormir chez moi. Et il y a vraiment ce lien très très fort de... on est partout accueillis quoi, en tant qu'accordeur.
Tous les services qui sont rendus, c'est du travail amateur. Tous les services sont rendus, on n'a pas le droit de rendre un service quand c'est notre métier. Et au final, la qualité des services, j'ai l'impression qu'elle est aussi bonne que si c'était des experts ou des professionnels. Comment vous vivez ça ?
C'est parce que d'abord, effectivement, ce que disait Muguette tout à l'heure, ce sont quand même des petits services. Hein. On ne va pas demander à quelqu'un de rénover une maison au complet.
Ouais, d'accord.
Il y a quand même des gens qui ont des talents, qui ont fait plein de métiers dans leur vie. Donc là, une fois que ce n'est plus leur métier actuel, ils ont le droit d'échanger. Donc on peut avoir été électricien, coiffeur ou je ne sais pas quoi dans sa vie. Et effectivement, souvent, les gens, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils échangent quelque chose qu'ils aiment faire.
Ouais.
Et quand on aime faire quelque chose, des fois, on apprend à bien le faire. Et c'est un des écueils qu'on a souvent entendu, et plus en France d'ailleurs qu'au Québec, c'était toujours « mais comment vous réglez les problèmes d'assurance ?» En 18 ans...
Assurance
si un service est mal rendu.
Oui, d'accord.
Eh ben, en 18 ans, si je fais les statistiques, que ce soit au Québec ou en France, ça se compte quasiment sur les doigts d'une main. Enfin, peut-être un peu plus, mais je veux dire, ça n'a vraiment pas été... c'est pas un problème qui arrive quoi. Donc en fait les gens ont à cœur de rendre un bon service. Après il faut aussi leur demander, c'est aussi comme c'est entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, de se dire si moi j'ai le cas justement, je pense à quelqu'un qui avait fait refaire sa peinture et quelqu'un qui avait dit oh ben moi je veux bien aider, et là ça avait été vraiment mal fait, donc c'est des accordeurs qui ont repris derrière, mais c'est un cas très rare en fait, mais parce que je pense que les gens échangent ce qu'ils aiment faire ou ce qu'ils savent faire. On a plein de petits talents, en fait, qu'on ne sait pas toujours.
Je pense qu'il faut qu'on aille en tant qu'accordeur Moi, par exemple, si je reçois un service, je ne vais pas demander la même chose qu'avec un professionnel. Donc, il faut aussi avoir le regard un peu plus conciliant de si la peinture n'est pas exactement comme un professionnel. Et quoique, des fois, ça peut être mieux qu'un professionnel. on a un autre regard. Pour moi, j'ai une autre attente aussi. Mais par exemple, j'ai posé du papier peint chez une femme à Surgère. Parce que j'aime poser du papier peint, que ça me fait plaisir. Et en fin de compte, derrière ce papier peint, où il y avait une salle immense à faire, on a mis plusieurs jours à le faire, il y a une amitié qui est née. Et au-delà de ça, on a parlé, on a discuté, on a bulleté, on a mangé ensemble le midi. Il y a tout cet aspect convivial qui rend plus fort le service échangé, quoi.
Je reviens sur la dimension alternative au système d'échange classique. Je repense à quand je suis arrivé sur Die, je ne connaissais personne ici. Je m'étais inscrit à l'accorderie juste avant, après avoir trouvé mon logement. J'ai appelé plein d'accordeurs qui font du déménagement sur Die. Il y en a 8 qui m'ont proposé. J'en ai même dû en refuser parce que j'en avais trop. J'ai dit non, mais arrête, ne venez pas, on sera. Et je suis arrivé, je ne connaissais personne. Il y avait 5 personnes qui m'attendaient pour m'aider à décharger le camion. Je les connaissais pas. On a fait ça en une demi-heure. Je n'avais pas non plus énormément d'affaires. Et au final, ça m'a coûté juste la location de la camionnette. C'était super sympa. Après, on a pris un petit verre. Ça m'a permis de découvrir des gens du coin, etc. Et ça m'a vraiment remplacé une prestation de 800, 1000, 1500 euros si je l'avais fait et qui n'aurait pas été très sympa non plus, je pense. Enfin, peut-être, mais...
Alors moi, j'ai eu mon déménagement de Surgère et ici, c'est quand même 800 kilomètres. Hein. Ouais. C'est des accordeurs de Surgère qui m'ont dit, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Donc, ils ont tout. Ils ont loué le camion. Ils avaient l'habitude de travailler tous ensemble parce qu'ils s'entendent bien. Donc il y a eu 4 personnes de Surgère qui sont venues, qui ont loué un camion. Et il y avait 2 accordeurs de Die qui attendaient le camion. Et on a tous déchargé ensemble. Et après, on a mangé ensemble le soir. Et du coup, moi, j'ai commencé à apprendre, juste en arrivant, j'ai commencé à apprendre des choses sur Die et puis à rencontrer des gens. Quoi.
Mais moi, j'ai des petites histoires au Québec. Je me souviens toujours le premier mariage entre accordeurs, parce que alors, c'était un petit bijou. Non, mais c'est ça.
On avait deux.
Ils sont rencontrés par l'accorderie, deux jeunes. Et ils avaient pas. Alors, eux, c'était deux. Ils n'avaient vraiment pas d'argent. Donc, pas question de se faire un grand mariage. Puis, c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Mais là, c'est l'accorderie qui a pris en charge le mariage. Donc, la robe de mariée, c'est des couturières. Le traiteur, c'est des accordeurs qui ont fait le repas. Et il y a eu une animation musicale. On a découvert des talents de toutes sortes, des gens qui savaient jouer d'un instrument, qui chantaient. Ça a été incroyable. Alors, on pourrait se dire, mais comment ils ont fait pour payer toutes ces heures? Alors, dans ces cas-là, l'accorderie, enfin à Québec, et puis on le fait des fois dans quelques accorderies, on donne un peu des heures comme ça. On est une banque centrale complètement déficitaire et on s'en fiche, c'est ça l'intérêt. Mais au-delà de ça, les deux avaient décidé de faire un maximum d'heures. Donc, ils rendaient un maximum de services pour empiler des heures. Et ça a été un moment absolument incroyable. Et je me souviens d'une autre fois aussi, où on avait fait une soirée pour fêter quelqu'un. Et on a découvert des talents artistiques. Une jeune femme qui était non-voyante et qui avait trouvé sa place à l'accorderie en faisant des rappels téléphoniques. Alors, elle avait quelqu'un qui faisait les numéros de téléphone à côté d'elle, mais c'est elle qui faisait les conversations et tout. Et on s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait la voix, alors bon, ça vous dit peut-être rien, mais de Fabienne Thibault, qui est une chanteuse québécoise très connue, qui nous a chanté du Starmania. Et alors, ce soir-là, on est tous restés comme ça, en se disant, mais c'est pas possible. Et on a découvert des talents comme ça. Donc, en fait, c'est incroyable ce qui se passe aussi, cette convivialité. Tu parlais de fraternité, mais c'est ça. Nous, quand on est partis, Joël et moi, la Corderie de Québec nous a fêtés. Mais alors, je m'en rappelle encore, hein, parce que c'était comme on dit là-bas, les yeux pleins d'eau tout le temps. Et on est partis avec des petits cadeaux faits par les accordeurs. Enfin, il y en a plein comme ça, des histoires de convivialité, de fraternité, où on sent que vraiment, on a aussi aidé une jeune femme, par exemple, qui avait fait de la prison pour vol et qui, en prison, voulait se reconvertir, faire un diplôme d'ébéniste. Sauf qu'elle avait des dettes, évidemment, parce que, bon, elle avait des dettes et on ne peut pas se faire financer une formation au Québec si on est des dettes envers l'État. Donc, on tournait en rond. Donc, il y a un petit groupe d'accordeurs qui a décidé de monter jusqu'au ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Et ils y sont arrivés pour faire débloquer la situation. Et comme, évidemment, elle n'avait pas le nombre d'heures qu'il fallait, parce que là, je crois qu'ils ont passé 200 heures ou 300 heures, c'est l'accorderie qui a donné les heures. En disant, de toute façon, on s'en fiche, nous, la banque, c'est pas grave, on peut y mettre autant de billets qu'on veut. Mais c'est ça aussi, c'est ces moments où on va aider des gens qui, après, elle a pu passer son diplôme. Puis après, ça a été quelqu'un, vraiment, qui a retrouvé des choses extraordinaires. Je vais rester sur une autre autre anecdote, mais quand on a mis en place le crédit solidaire au Québec, parce que justement, on voyait tous ces prêteurs sur gage qui arrivaient avec un taux d'usure au Québec, c'est 60%, il faut le savoir. Hein. 60%.
Taux d'usure, c'est...
Taux d'usure, c'est-à-dire qu'on te prête 100, il faut que tu en rembourses 160. Je ne sais pas, tu vois ce que ça donne.
Mais dans quel contexte on doit rembourser
c'est ce qu'on appelle des prêteurs sur gage. Okay, ils ont d'accord. le droit de mettre ce qu'ils veulent comme taux. Donc, alors, ils en profitent avec les gens qui sont en particulier sur des minima sociaux. Ils leur prêtent l'argent en fin de mois quand ils n'en ont plus et que le minima n'est pas encore arrivé, avec des taux donc on voulait arriver. Puis alors là, ils s'en installaient à peu près partout. Donc, on s'est dit, ce n'est pas possible. Donc, on a doté un fonds de prêt de 50 000 dollars, donc à peu près 40 000 euros, par la Caisse d'économie solidaire où je travaillais. Quand je suis partie en 2010, on avait mis ça en place en 2002, on avait fait 300 prêts, un peu plus, et on avait prêté plus de 250 000 dollars avec les 50 000 d'origine. Le prêt avait tourné 5 fois. Et on avait permis à des gens de se sortir de situations dans lesquelles ils étaient complètement embourbés dans des dettes qui les bloquaient dans leur vie de tous les jours. Mais le premier prêt qu'on a fait, c'était un jeune de 18 ans qui s'était retrouvé, qui s'était fait voler par son colocataire, enfin, ce qu'on appelle le système de son au Québec, enfin, sa chaîne et puis ses enceintes. Donc, il voulait les racheter aux prêteurs sur gage. Mais donc on disait, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, la discussion dans le comité de prêt qui était formé d'accordeurs, on avait quand même quelques personnes qui disaient, ouais, mais enfin, bon, c'est pas un bien social, il a 18 ans, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse autre chose avec cet argent, c'est pas normal et tout. Et puis, on a insisté en disant, mais pour lui, oui. S'il n'a pas sa musique, il ne va pas pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc, c'était le premier prêt qu'on a fait. Et bien, ce jeune-là, on lui a fait un prêt, il a racheté une chaîne. Un an plus tard, il nous a dit, il est revenu nous voir en disant, ben, je fais une formation, mais là, je vais avoir besoin d'une voiture. On lui a reprêté pour une voiture. Et puis c'est quelqu'un dans la vie qui, après, a retrouvé toute sa confiance en lui, etc. Et ce qui était incroyable, c'était cette discussion qu'on avait autour du premier prêt. Alors, souvent, quand on parle de besoins essentiels, ça me rappelle un peu des souvenirs, mais c'est de dire, mais qui on est pour décider des besoins essentiels d'une personne? Et pour ce jeune de 18 ans, sans sa musique, il ne pouvait pas s'en sortir. Mmh. Et c'est ça, la corderie. C'est des tas de petits, comme ça, j'en ai tellement d'anecdotes, mais des petits moments de bonheur comme ça, où on se rend compte qu'il a fallu d'un petit déclic. C'est aussi ce qu'on appelle dans le développement du pouvoir d'agir, c'est de dire à un moment donné, la personne qui est devant une difficulté, il faut l'aider juste à sortir cette difficulté-là, et après, elle va faire son chemin. Et c'est ça aussi le principe dans les accorderies. Tu me demandais tout à l'heure la mission, mais pour nous, la mission, c'était ça. C'était bon, lutter contre les précarités et l'exclusion, mais c'est aussi briser l'isolement des personnes et favoriser le développement. Favoriser l'isolement des personnes et développer le pouvoir d'agir des personnes. C'est-à-dire leur permettre de passer, comme on dit toujours, quand on veut passer une rivière, moi je prends toujours l'allégorie, on veut passer une rivière et on ne sait pas s'il y a un gué, s'il y a un pont, s'il y a des pierres. Et la personne qui a des difficultés à passer la rivière, il faut juste que quelqu'un soit capable de lui dire « Regarde plus loin, il y a un pont, il y a un gué, il y a des pierres, etc. » La personne, une fois qu'elle aura traversé, elle va continuer son chemin. Là, la corderie, des fois, dans ces cas-là, elle est là aussi pour juste aider à passer ce passage. Et elle n'est surtout pas là pour donner des leçons de morale à la personne, pour lui demander ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle va faire. Mais c'est juste l'aider à passer une difficulté. Donc ça fait aussi partie des gènes de la corderie.
Et dans ce cas, la corderie permet d'échanger des services avec du temps, mais ça permet aussi d'accéder à des biens matériels via du prêt. Ou est-ce que parfois vous avez aussi envisagé d'échanger des biens contre du temps? Ou est-ce que ce sont des réflexions que vous avez eues déjà?
On a eu des débats. On a eu au Québec, mais là on s'est aperçu que on était en train de dévier le système. Mm-hmm. Parce que c'est surtout que il y avait eu un biais vraiment qui est en train de se faire, c'est que, comme par hasard, les gens qui voulaient échanger des biens contre du temps, c'était des gens qui avaient des un peu plus d'aisance financière et qui, je me débarrasse de mon canapé ou de mon frigo ou je le change et je vais échanger contre des heures. Donc, bon, alors effectivement, pour la personne, elle pouvait se retrouver avec un bien d'une valeur intéressante. Bon, on s'est dit, alors là, c'est en train de dévoyer complètement le système. Donc, à un moment donné, on a dit, OK, mais c'est une heure. C'est-à-dire, tu échanges un bien, c'est une heure, quelle que soit la valeur du bien. Donc, ça a quand même fait un peu dégonfler le système. Bon, on n'a jamais voulu... pareil pour les prêts, le crédit solidaire, c'est souvent plus pour régler des problèmes de dette ou des gens qui ne s'en sortent pas avec des...
Ouais,
mais ce n'est pas vraiment fait pour acheter. Ça peut être, si c'est un bien, quelqu'un dans le frigo lâche ou je ne sais pas quoi, on va lui prêter pour acheter un frigo. Hein. Ça, c'est un peu classique, comme on dit, ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Pour éviter qu'ils se payent des intérêts absolument épouvantables, puisque c'est intérêt zéro, évidemment, dans une association. Par contre, ils donnent des heures à l'accorderie pour avoir droit au prêt. Parce que c'est un service qui est rendu par des accordeurs à d'autres accordeurs. Le système d'échange d'achats qu'on avait fait au Québec, c'était pareil. Il y avait des gens qui s'occupaient des achats, c'est-à-dire qu'on faisait des commandes groupées. Alors, c'était incroyable, d'ailleurs. une fois par mois au début, c'était tout le monde venait, on faisait presque des enchères. Je veux deux tomates, parce que c'est deux tomates, trois tomates, je ne sais pas quoi. On cumulait tout. Et il y a des gens qui allaient chercher chez les producteurs les courses. Et après, il fallait les répartir. Et ben, ces gens-là recevaient de l'heure, ce qui fait que pour pouvoir accéder au groupe d'achat, il fallait donner 2 heures par mois à la corderie. Donc voilà, on a toujours transformé, en fait, c'est ça qu'on a innové depuis le début, c'est toujours transformer quelque chose en... que ça devienne un service collectif ou individuel, mais que ça devienne un service qu'on peut se rendre et donc pour lesquels on reçoit du temps.
Mais alors, limite, pour aller plus loin, par exemple, on pourrait imaginer que peut-être dans un futur proche, des collectivités acceptent qu'on paye la facture d'eau en échange de temps, par exemple, quand on est un peu ric-rac financièrement, ça pourrait être des choses envisageables, peut-être.
Ce fameux chercheur dont je parlais, qui s'appelle Bruno Théret, nous avait dit que oui, il y en a qui commencent à se poser des questions en disant peut-être qu'il faudrait inventer une monnaie temps pour les citoyens. Il disait, mais même pour des impôts, il disait pourquoi on pourrait imaginer qu'en rendant service à l'État, en temps, eh ben, ça permette de payer. Je pense que malheureusement.
On n'y est pas encore.
Je ne suis pas sûr qu'on y soit encore. Ça demanderait changement de culture économique.
Payer un loyer en échange de temps, par exemple, c'est encore une étape.
Ça existe déjà, ça. On est dans le besoin, on trouve un logement et en échange de travaux, oui. En échange de garde d'enfants ou de jardinage, on peut. On peut arriver à se loger, quoi. La corderie, moi, je vais revenir sur le prêt à Surgères, par exemple. Il y a ça aussi à dire. À Surgères, on a besoin d'une perceuse pour percer 10 trous. On ne va pas aller acheter une perceuse. Et ben, il y a toujours un accordeur qui va dire « Moi, je te prête la perceuse, quoi. » Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et à dire, il y a une boîte à outils. Donc, si, par exemple, on a besoin d'une perceuse ou d'une visseuse, on emprunte la boîte à outils. Et on la ramène 2 jours après, une fois qu'on a fait notre petit bricolage. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant parce que on n'a pas toujours l'outil qu'il faut et on ne va pas forcément l'acheter parce que déjà, on n'a pas forcément les moyens. Et puis, si c'est pour faire 10 trous dans sa vie, on n'a pas besoin d'une perceuse. Et du coup, ce système d'échange est intéressant, quoi.
Mais je vois à Paris 14e, ils ont inventé quelque chose d'assez extraordinaire. L'offre culturelle sur Paris, bon, malheureusement, depuis confinement et puis la pandémie, ça s'est arrêté. Mais l'offre culturelle sur Paris est absolument énorme, avec des coûts que la plupart des accordeurs ne peuvent pas se payer. Ils ont réussi à faire un groupe d'échanges. Je ne sais pas comment ils ont menayé ça, mais ils ont des tarifs à 5 euros.
À Surgères aussi pour le cinéma et pour
le théâtre, le cinéma, etc. D'accord. Et ça marche absolument extraordinairement bien. Et ce qui est très drôle, c'est que celui qui a mis ça sur pied à Paris, c'est un accordeur qui, moi je le connais depuis longtemps, et au début, il disait, mais je ne comprends pas ce que je fais dans l'accorderie. Et puis moi, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le conseil d'administration, je n'y connais rien, etc. Bon, aujourd'hui, il est président de la corderie du 14e, et il est l'animateur du groupe de culturel. Donc, je vous dis aussi, quand on voit comment les gens évoluent dans les accorderies, c'est passionnant de voir comment, des fois, ils prennent leur place et ils prennent confiance en eux. Et ça, c'est vraiment un des éléments importants.
Mais pour arriver jusqu'à négocier des places à 5 euros, alors je ne sais pas quelle institution culturelle à Paris.
Oui, je ne sais pas, je n'ai pas le détail, mais enfin, moi, chaque fois que je suis allée à la corderie du 14e, j'ai vu une soirée à 5 euros. J'ai dit, mais faites comment ? Il me dit, je te rencontrerai un jour, mais il faudra que je lui demande. Mais quand on fait des événements nationaux, bon, alors, manque de poids cette année, on n'a pas pu le faire, mais quand on fait des ateliers d'échange de pratiques entre accorderies, quand toutes les accorderies sont rassemblées au même endroit, là, c'est ahurissant d'entendre tout ce que chaque accorderie a inventé. Non, mais
c'est. Il faudrait qu'on vienne faire une interview et enregistrer ce genre de choses.
Ah oui, c'est sûr que là, ça vaudrait la peine parce que là, ça va se faire par Zoom la semaine prochaine. Ouais. Dans la semaine des solidarités, il va y avoir des échanges en inter-accorderie. Mais c'est passionnant. Moi, il y a pas long. Quand on reçoit au niveau du réseau, quand on reçoit tous les rapports d'activité des accorderies, mais c'est un foisonnement d'idées absolument incroyables.
Ce que je trouve intéressant dans l'accorderie, c'est que tout est possible. Et si on a envie de créer un atelier ou d'aller chercher des places de théâtre à 5 euros, par exemple, tout est possible. Et on monte des commissions et puis on s'y met. Et ça, je trouve que c'est et d'envisager de vivre autrement. Parce que quand on dit on va aller chercher à Surgères, ils avaient été voir le théâtre et puis ils avaient négocié le prix comme si c'était un CE d'entreprise. Il y en a deux qui sont mis et voilà, on va essayer de faire quelque chose. À Surgères, on avait mis en place, on faisait venir des auteurs du coin, parce que dans la commission culture auquel je participais, on s'est dit, il y a des auteurs, pourquoi pas en faire profiter les accordeurs, et puis c'est un échange de qu'est-ce qui se passe sur notre territoire et tout ça. Et donc, dès qu'on a une idée, Alors des fois, ça capote parce que ça va pas jusqu'au bout, parce que c'est trop compliqué ou qu'on s'arrête en route. Mais dès qu'on a une idée, on peut la mettre en place, quoi. Les achats groupés à Surgères, c'était vraiment sur plein de choses, quoi. Sur les pommes de terre, sur les pommes, sur les produits bio. Après, on cherchait pour acheter du bois ensemble pour que ça coûte moins cher. Enfin, après, tout est envisageable, quoi. Et cette force, elle est communicative, quoi. Comment on peut vivre ensemble ?
Il y a des choses que tu aimerais mettre en place, là, maintenant que tu es sur 10 depuis quelques temps. Il y a des choses qui te font rêver.
Oui, oui. Tout me fait rêver, mais voilà, j'ai déjà mis l'atelier choucroute en place.
Ah, c'est toi qui mets en place l'atelier choucroute.
Oui,
okay.
Oui. Donc voilà, on a préparé le chou. Il y a déjà une accordeuse qui m'a mis un petit mot. Ça y est, je l'ai mangé, super bon. Alors qu'elle est belge et il y a une Allemande qui la choucroute, elle connaît, elle n'avait jamais fait. Donc du coup, c'est moi qui suis normande qui lui apprend faire la choucroute, quoi. Et au-delà de tout ça, on a fait la choucroute, mais après on a mangé ensemble, ouais. On a discuté, moi j'ai commencé à les cerner, à rencontrer d'autres personnes. Donc voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais faire ? La culture, il y a plein de choses que j'aimerais faire.
Ouais. Faire des rencontres d'auteurs, par exemple, oui. Comme tu faisais à Surgères,
ce genre de choses. Oui, oui.
Vous avez des services à offrir ?
Oui. J'ai plein de services à offrir. Je sais faire de la peinture, du papier peint, du jardinage, de la cuisine. Moi, je fais beaucoup de choses à base de plantes sauvages, donc je peux faire des ateliers. À Surgères, je faisais ça, on faisait des ateliers gelée d'ortie. On allait cueillir les orties, on faisait la gelée. Et après, on mangeait tous ensemble, plein de choses autour de l'ortie, quoi. Et puis, on discute et voilà.
Pascal. Moi, j'ai fait pas mal de permanences, mais alors je dois avouer que le réseau, depuis 2-3 ans maintenant, ça me bouffe un temps absolument incroyable, donc c'est plus compliqué, parce que là, je pense que je fais beaucoup d'échanges au niveau du réseau. Mais sur le DIY, au début, je faisais des permanences, parce que j'adore ça, rencontrer les gens. Comme je suis l'ancienne expert comptable, ça doit être encore marqué, ça m'est arrivé de dépanner des gens sur des problèmes administratifs, des choses comme ça. Et puis moi, mon grand rêve, mais je ne l'ai encore pas réalisé, c'est un groupe de danse, parce que j'adore danser. Donc on va y arriver, mais...
Ton rêve, c'est un groupe de danse.
Oui, on voulait faire, on est quelques-uns à aimer, enfin plus que quelques-uns à aimer la danse et me dire tiens on pourrait monter. Parce qu'au salsa, au Québec, on avait un accordeur qui nous a fait faire de la salsa pendant 3 ans. On était devenus tellement bons qu'il y avait un café de Québec qui nous demandait de faire des démonstrations tous les vendredis soirs quand même. Hein. Donc, c'était quelque chose ça. Et ça, c'est des petites choses comme ça que j'aimerais faire. Mais il faudrait que je me dégage un peu du réseau parce que ça fait longtemps que j'y suis. Et c'est vrai que c'est... Mais avec tout ce qu'on a mis en place, la gouvernance partagée, la socio les commissions, ça va peut-être pouvoir se faire tranquillement quand on sera un peu sorti de cette période compliquée là. Mais voilà, donc mais c'est vrai que le réseau, moi, c'est plusieurs heures par semaine consacrées dessus, donc j'ai un peu levé le pied sur les permanences. Mais au début, j'en faisais très très régulièrement. Et puis bon, j'ai fait un atelier, mais là, je l'ai pas proposé. J'ai plutôt participé à un atelier de fabrication de meubles en carton. Je me souviens, on a bien rigolé ce jour-là. Enfin, des choses comme ça intéressantes.
Ce que représente la corderie, pour le développer encore plus, c'est juste que parfois les gens n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés par leur travail, leur contraint du quotidien. Donc ils n'ont pas le temps de découvrir toutes les merveilles qu'on peut découvrir dans la corderie. Parce que parfois, simplement,
sauf
on est plus dans son travail.
Voilà, sauf qu'on dit des fois, réfléchis à ce que la corderie pourrait te faire gagner comme temps.
Ouais.
On ne raisonne pas toujours comme ça. Alors, et puis effectivement, des fois, c'est plus rapide de se dire, c'est plus rapide de le faire moi-même et tout. Mais je me souviens d'une jeune maman qui s'était dit à un moment donné, non mais j'ai pas le temps, nanana. Et puis un jour, elle a commencé à découvrir que dans le fond, elle pourrait peut-être de temps en temps laisser ses enfants à quelqu'un et avoir du temps pour elle. Et là, tout d'un coup, elle a réalisé que c'était pas de la perte de temps qu'elle allait faire, c'était au contraire en gagner. Donc, mais il y a un petit pas à faire. Ouais. Et ça, c'est la grande question. C'est toujours le même chose, effectivement. C'est comment je m'investis dans la corderie. Puis ça, on le voit, plus les gens échangent et plus ils trouvent le temps d'échanger. Donc, il faut passer un peu le... Il y a un cap à passer, quoi.
On arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour conclure ? Un petit truc que vous avez envie de partager ?
Moi, je trouve que la corderie... J'étais 3 ans accordeuse à Surgères. Ça a vraiment été un point central dans ma vie. Déjà, dans ma façon de me questionner, qui est là depuis longtemps, hein, de me questionner comment je vis autrement... mais de mettre l'humain au cœur de ma vie. Et je trouve que ça a vraiment été... Parce qu'il y a plein de choses. Derrière la corderie, il y a le don. Et c'est pas facile de... c'est plus facile pour certains de donner que de recevoir, plus facile pour d'autres de recevoir que de donner. Donc tout ça, c'est des réflexions qui peuvent être philosophiques, enfin qui pour moi ont été philosophiques, mais qui m'ont fait avancer dans mon cheminement. Et il y a pas, parce que derrière ce petit geste, on échange, il y a plein de ramifications qui se greffent autour de l'humain. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse.
Merci.
Difficile de conclure parce que je suis complètement d'accord. Non, mais je crois que c'est ça. Moi, j'ai juste envie de dire une aventure qui a commencé en 2002, en 2020. Je pense qu'on n'aurait jamais rêvé qu'elle serait, elle aurait continué comme ça au début. Je dis toujours, les deux premières années au Québec, on a vraiment ramé un peu pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fabrique ? On ne savait pas trop. Et puis, je me dis que 18 ans plus tard, ça correspond c'est vraiment quelque chose qui correspond effectivement à quelque chose de profondément humain où on met la personne au centre. Et pour moi, c'est plus important. Et qu'effectivement, même si ce n'est pas un système économique complètement alternatif, ça questionne quand même sur nos modes de consommation et de production et de se dire on peut faire autrement. Et je pense qu'en plus, avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question, comme on a commencé à dire, ou dans d'autres accorderies, sur le monde d'après. Et peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau du réseau, nous on se dit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore très gros, mais on commence à être écouté par certaines institutions et on a décidé d'y aller en disant, ben, nous on a quelque chose à dire de ce qu'on peut vivre en société. Aujourd'hui, on a assez d'expérience, on a assez d'accordeurs en France, on a assez d'heures échangées pour vous dire c'est pas possible de continuer comme ça et l'économie, elle peut se concevoir complètement autrement et peut-être revenir au passé de ce qu'était l'économie au début, c'était échanger. Donc voilà, on fait à notre mesure, mais moi je suis toujours frappée de voir des grands partenaires qui viennent nous chercher pour nous dire ben, vous avez quelque chose à nous apprendre qu'on a oublié.
Donc, vous allez voir quel partenaire.
En particulier, par exemple, le Secours catholique, parce qu'au-delà de qui a sorti hier un rapport sur la pauvreté qu'il faut vraiment lire, parce que c'est encore, ils l'ont sorti en 2019, donc l'an prochain, il risque d'être encore pire entre guillemets sur le portrait, quoi. C'est catastrophique. Et pour le Secours, on est un exemple de lieux où on permet à des gens, quand on dit qu'on lutte contre la pauvreté ou la précarité, en fait, c'est surtout qu'on permet à des gens qui sont dans des situations difficiles de retrouver confiance en eux, de voir qu'ils comptent pour la société, qui ne sont pas juste des charges, comme on a tendance à leur dire. Et moi, je me dis que des lieux comme ça, où on innove tout le temps, comme on l'a dit, des lieux où on peut se retrouver complètement sur un pied d'égalité et qu'on rend le même service à la société. Moi, j'ai toujours dit, mais le jour où on me dira qu'une personne vaut plus qu'une autre dans la société, que sa contribution humaine et sociale est plus importante, je vais avoir un sacré problème avec la personne qui va me dire ça. Donc, je pense que dans les accorderies, cette base même d'égalité, de reconnaître les talents, les compétences de chacun dans la société, à notre mesure et on montre qu'on peut vivre les choses autrement. Donc pour moi c'est vraiment important effectivement de remettre la personne au centre en disant mais qu'est-ce qui compte dans la vie là, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer dans ce monde aujourd'hui et le plus important c'est de vivre en fraternité, en amitié ou tout ce qu'on veut et de vivre dans des conditions plus que décentes. Alors bon, on ne va pas nous tout seul, c'est pas le réseau des accorderies, c'est les 37 accorderies qui vont modifier le monde, mais on a notre mot à dire là-dedans. Donc, ce qu'on essaye de faire en ce moment.
Et notre place à prendre sur un territoire.
Ouais. Tout à fait. Alors ça, oui. Qui commence d'ailleurs à être connu, parce que ça, par contre, c'est intéressant de voir comment, sur les territoires, des collectivités commencent à s'intéresser à ce qu'on fait, là. Ça a été très frappant pendant le confinement, hein, où tout d'un coup, on a découvert que des associations comme les nôtres pouvaient rendre service à des gens qui étaient dans des situations compliquées d'isolement. Et là, il s'est passé des choses assez étonnantes, quand même, de dire, tiens, tout d'un coup, on existe pour certains, quoi.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci à toi.
Au plaisir pour continuer les échanges une prochaine fois. Bonne journée et puis à très bientôt.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée.
Ok. The bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.